Donc, Khmer Vandana est historienne. Elle est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Tunis d'Amanouba. Elle est chercheuse à l'Institut supérieur d'histoire du mouvement national, qui est appelé à changer de nom dans les jours qui viennent pour devenir l'Institut supérieur d'histoire de la Tunisie contemporaine. Et je crois qu'il y a là, on parlait l'autre jour à l'ENS de la création du master d'histoire du temps présent à l'université Mohamed V de Rabat. Et bien là, je crois qu'il y a un même mouvement aussi d'entrée dans l'histoire et de reconnaissance de la contemporanéité dans l'histoire. Alors, c'est une historienne de la culture et notamment, ses sources ont été longtemps les revues de cinéma. Elle travaille à différentes revues, Ibla bien sûr, la plus ancienne des revues tunisiennes, mais Rawafi, la revue de l'Institut supérieur d'histoire du mouvement national tunisien, et l'ancien annuaire de l'Afrique du Nord devenu l'année du Maghreb, dont elle est membre du comité scientifique. Je lui laisse la parole pour ce questionnement d'historienne du social. Une révolution imprévue, société méconnue, titre un peu provocateur, et je lui cède la parole.
Merci beaucoup Frédéric et merci beaucoup Touria et toute son équipe de m'avoir invité. Je suis ravie d'être dans un colloque où il y a plein de disciplines autres que l'histoire. C'est vraiment formidablement rafraîchissant pour moi. Merci beaucoup. Je vais commencer par trois points d'introduction pour essayer d'enserrer un peu mon propos dans ma discipline, de peur de me perdre, mais en tout cas je voudrais apporter la voix de ce que j'exerce aujourd'hui comme métier depuis la Révolution et les questions qui me viennent aujourd'hui en tant qu'historienne après la Révolution. La première idée, c'est qui vient, comme je vous l'ai dit, de mon métier. Mon métier parle des révolutions, c'est vrai, une fois qu'elles sont passées, ça c'est vrai. Donc comment est-ce que la discipline historique pourrait-elle parler de l'imprévu, précisément? L'historien arrive toujours après les événements, et en tout cas leur demander d'en parler, c'est un exercice intellectuel un peu acrobatique, contre nature, je dirais, en tout cas contre culture, puisque les historiens travaillent sur les archives, donc sur des traces qui sont là, sur une fois que le temps s'est un petit peu écoulé quand même, même si on a inventé l'histoire immédiate, et exige et parle du recul, à juste titre du reste, puisqu'ils doivent recouper des choses, etc. Donc, même pour une historienne, une révolution, c'est un accident, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, et précisément, c'est le deuxième point de mon introduction, une révolution, même quand vous êtes historien, ça vous tombe dessus, donc comme ni plus ni moins que personne, l'historien, lui aussi, quand une révolution lui tombe dessus, eh ben, il a l'émotion de tout le monde, c'est-à-dire qu'il subit lui aussi un événement. Certes, aujourd'hui, il est devenu charismatique. Hein. Je sais que cet événement est entré dans l'histoire, enfin pour les suivants, les historiens suivants, des générations d'après. Mais c'est déjà un événement charismatique aux yeux des vivants aujourd'hui, des Tunisiens et du monde entier. J'en suis consciente, ce qui ne diminue absolument pas l'émotion, je vous l'assure. Cet événement charismatique a une charge qui ne cesse pas elle-même, si vous voulez, de charrier beaucoup d'autres émotions, c'est-à-dire une sorte d'éclatement ou de spectre de plus en plus de ces émotions et de ces effets d'un événement aussi exceptionnel qui est mis en œuvre, qui est instrumentalisé, qui est investi, qui est réutilisé, qui est vécu sous différentes dimensions par des acteurs qui eux-mêmes sont de plus en plus multiples et variés, qui apparaissent, qui émergent, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui la revendiquent, qui en parlent, qui la protègent aussi. Et donc, chaque Tunisien aujourd'hui a sa relation de la révolution, relation au sens récit, si vous voulez, de... ce qui est très bien, hein, je ne dis pas le contraire, chaque Tunisien aussi a sa relation de cette transition, de cette fameuse transition, encore un mot qu'il faut mettre maintenant avec un T majuscule, mais on ne sait pas du tout quels sont les adjectifs qui vont venir derrière. Et cette vision extérieure, même cette vision du monde qui nous en sert et qui nous regarde, comme disent tout le monde, le monde nous regarde, c'est terrifiant, quoi. C'est assez terrifiant en soi, parce que nous sommes encore sous l'effet de cette émotion elle-même. Donc l'émotion démultipliée. Et tout ça n'a pas empêché non plus les choses d'évoluer à grande allure et dans tous les sens. Vous le savez, il y a une accélération extraordinaire de tout. Nous la vivons aussi dans une sorte de semi-conscience, parce qu'on ne peut pas toujours être conscient, au point que de temps en temps, quand on essaie de faire le point entre nous, et bien rappelle-toi, c'était juin 2011, non, c'était juillet 2011, etc. Je veux dire, nous-mêmes, nous n'arrivons plus, même dans ça. Dans cette relation entre nous, même subjective, à retrouver, parce qu'on essaie, nous aussi, un peu sauvagement, mais comme des historiens, la chronologie, qui a fait quoi, quand est-ce que cette loi a été faite, etc. etc. Et donc, c'est devant toutes ces données que la difficulté de rendre compte aujourd'hui d'une submersion, c'est quasiment submergé, mais une submersion qui prend une forme très palpable, c'est qu'on est submergé par le politique, ou par la politique, peut-être les deux, à bien y réfléchir. Parce que maintenant, aujourd'hui, tous les Tunisiens s'occupent de politique, en tout cas, infiniment plus qu'avant, disons, s'occupent de politique. Et précisément, ce qui s'apparente en Tunisie aujourd'hui à l'histoire est embourbé dans une vision, paradoxalement, dont on s'est aperçu qu'elle était statique aussi, une sorte de mémoire historique fichée en histoire. Là aussi, ça c'est une découverte d'historienne, on découvre les choses à tout âge. Donc à ce moment précis où on est tous envahis par la politique, et cette passion a éclaté évidemment avec la libération de la parole, comment construire véritablement de la connaissance historique, à commencer, parce qu'il faut être modeste, même si on s'en tient. Je dis bien même si on s'en tient à l'histoire politique stricte. Je ne parle pas du reste. Alors, la seule chose que peut faire un historien devant cet imprévu, c'est de relire l'histoire. Vraiment, c'est la seule chose qu'on peut faire. Parce que c'est à la fois une bouée et un besoin. Pourquoi ? Eh bien, parce que en cette période agitée, on se rend compte que les rapports à l'histoire en Tunisie sont loin d'être simple, ni apaisé, ni même clarifié. On m'a demandé de refaire la notice biographique, je ne sais pas si je devrais le dire publiquement, la notice, pas biographique, la notice Tunisie pour l'Encyclopédia Universalis. J'ai dit oui, on m'a donné 8 mois, j'ai commencé à écrire au bout de 3 ou 4 mois, j'étais incapable de l'écrire, et même de la construire. Tant j'avais de choses à relire et qui me ne permettaient pas de faire une synthèse, ce qui aurait été possible 2 ans avant ou 3 ans avant, j'espère que ce sera possible dans quelques temps, mais une synthèse, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, moi, je suis incapable aujourd'hui de faire une synthèse de la Tunisie contemporaine, d'autant qu'on m'a demandé une synthèse de la Tunisie post-indépendance. Mais c'est de cette impuissance que je vous fais part. Et justement ces rapports à l'histoire qui sont loin d'être simples, je peux vous donner 3 exemples qui sont très, à part mon témoignage direct, c'est que la réactivation du conflit Bourguiba Ben Youssef, elle a complètement réapparu dans tous les sens du terme. L'hypocrisie aussi de l'image, peut-être de la figure de Farhad Hachev, sans parler évidemment de celle de Bourguiba dont je ne vous parle pas parce que c'est une chose plus banale, mais je vous parle quand même d'autres choses plus importantes pour un historien, peut-être, en tout cas sur le plan de l'histoire, pas seulement sur celui de la mémoire. Et puis, dernier détail qui semble un petit peu technique, mais qui vous dit à quel point l'histoire aujourd'hui est en train d'envahir de partout, je dirais, une sorte d'inondation de cette histoire. La délimitation du 1er janvier 1955, 55, c'est l'année où Bourguiba est rentré avant, donc l'année qui suit l'autonomie interne et avant l'indépendance, donc l'année entre les deux. Et c'est l'année qui a été choisie pour être le terminus ad quem pour l'application de la supposée loi sur la justice transitionnelle qui n'est pas encore née. Vous voyez comment, je vous ai donné ces exemples un petit peu en vrac, pour vous expliquer jusqu'à quel point l'histoire est en train d'inonder tout ce qui se passe, sans que les gens d'ailleurs y voient clair, parce qu'il y en a qui se... les Narvaoui ont commencé à dire qu'ils étaient des youssefistes, la famille même de Youssef a dit « mais non, c'est non, on n'est pas de ces gens-là ». Enfin bon, il y a des tas de choses qui se passent comme ça, et qui montrent bien d'ailleurs que les Tunisiens eux-mêmes ne sont pas bien clairs là-dessus, au point que si on veut les tromper, c'est qu'ils ne sont pas bien clairs là-dessus, heureusement que la famille de Youssef a réagi. En réalité, nous vivons une querelle sur le passé, avec tout ce que la suppose, comme animosité, comme ressentiment, comme désir de revanche, parce que c'est utilise ça pour ça, et cela ajoute à la situation de crise politique vécue aujourd'hui. Un aspect sur lequel personne aujourd'hui, je vous ai parlé de l'accélération, n'a le temps de s'attarder dans cette course au pouvoir, mais qui est nécessaire, plus que jamais, à moyen et à long terme. Histoire, mémoire et passé sont trois niveaux différents d'analyse et d'appréhension, dont la liaison aujourd'hui est de plus en plus complexe et de plus en plus qui échappe de plus en plus, même si les Tunisiens se sont passionnément emparés de la politique, le débat actuel politicien est construit autour de vide, de silence, et cela ajoute à l'état d'impréparation générale qui est déjà prévalé quand l'imprévu est arrivé. Par exemple, quand on parle de la loi qui a été votée, qui est en passe d'ailleurs d'être retirée de l'Assemblée nationale, la fameuse loi sur l'exclusion politique, mais qui est aussi, il y a des tentatives de la remettre un peu dans la fameuse loi de la justice transitionnelle, celle qu'on appelle l'exclusion. Eh bien, ceci n'a même pas laissé le temps aux Tunisiens de comprendre que si aujourd'hui le parti Ennahda prépare au présent une loi sur l'exclusion, c'est que l'exclusion est dans notre histoire. Elle est dans notre histoire, même la plus présente, puisque le néo-destour de Bourguiba s'est construit sur une exclusion du destour de Bourguiba dès 1937, c'est-à-dire 3 ans après la naissance du néo-destour, par le après le destour. En 1956 lui-même, Bourguiba a passé 3 ans avant l'écriture de la Constitution, à exclure les Étouniens, les communistes, les syndicalistes, tous ces gens-là qui avaient fait, avec le néo-destour, l'indépendance. Et donc cette loi sur la protection de la révolution, sur laquelle beaucoup de Tunisiens sont en train de s'arracher les cheveux, parce qu'elle est effectivement très dangereuse, est un serpent de mer qui est là, pas seulement depuis que les Narvaoui sont là, mais depuis que l'histoire politique contemporaine de la Tunisie s'est construite. L'histoire de la Tunisie contemporaine aussi s'est construite sur un processus d'exclusion. Ce qui fait que, là aussi, cette ignorance de l'histoire fait que, ou on s'en prend trop au parti Ennahda, en continuant à mystifier l'histoire bourguibienne, ou bien à leur dire qu'ils sont en train de faire quelque chose de nouveau, alors qu'ils sont en train, en fait, de puiser dans l'histoire du pays. Deuxième explication, peut-être, d'histoire qui n'est pas du tout connue, celle du parti Narda lui-même, qui est aujourd'hui au pouvoir. D'accord, son référent, et peut-être même sa position, ce sont des frères musulmans, mais tunisiens, tunisifiés, ou en tout cas en poste en Tunisie. Mais le parti Narda, le mouvement Narda, qui a commencé, mouvement islamique, de tendance islamique, dans les années 70, qui a commencé d'ailleurs comme un mouvement étudiant, hein, comme tous les autres, dans les années 70, qui a commencé à apparaître, elle n'est pas faite, cette histoire intrinsèque de ce mouvement, qui jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à se conduire comme parti. Et puis tous ces non-dits de ce mouvement lui-même, les attentats de 1982, de 1991, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que dans tous les affrontements que l'on a, politiques, et je vous passe les détails, nous avons encore cette histoire qui est très très présente, mais incarnée par ces personnes. sans qu'on puisse le dire ni le formuler, parce que nous n'avons pas le temps. Deuxième point, c'est un imprévu qui marque le présent, mais qui, à mon avis, va aussi marquer l'histoire. Celle que l'on vit, d'accord, et que l'on va vivre, mais aussi celle qui va être écrite. Quoi qu'on dise de l'histoire tunisienne contemporaine, et bien qu'elle ne soit pas vraiment connue, ni suffisamment balisée, son écriture aussi a connu des moments différents. Ce que l'on ne sait pas aussi, parce qu'on croit que l'histoire en Tunisie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une sorte de mémoire historique figée. D'abord, il y a eu une construction d'une histoire nationale sous la colonisation. Les premiers manuels d'histoire de la Tunisie contemporaine ont été écrits en 1910, en 1927 et en 1945. Ce sont les matrices des manuels d'histoire de l'après-indépendance. C'est sous la colonisation que Hassan Hosni Abdelwahab, que Bachir Sfar, que Omar Rokbeli ont produit ces manuels types de la post-indépendance. Donc ce premier moment de l'histoire de la construction nationale s'est fait sous la colonisation. Deuxième moment où il y a eu une autre écriture de l'histoire nationale sous Bourguiba, c'est celle de Bourguiba précisément, donc une entreprise qu'il a eu le temps d'écrire ou de faire écrire sur 30 ans, enfin il a commencé et puis d'autres ont continué, et qui a duré pendant tout son régime. Évidemment, elle a été orchestrée par un de ses fils spirituels, Mohamed Sayer, mais elle a été aussi réintroduite dans toutes les biographies que l'on trouve sur Bourguiba, surtout, et qui ont, d'une certaine manière, écrit l'histoire plus du régime que de Bourguiba lui-même. Même dans les biographies de Bourguiba, vous trouvez une histoire du régime et pas de Bourguiba. Là aussi, il y a un travail historique qu'il faudrait faire, à mon avis, autour de Bourguiba lui-même, pour le comprendre. Troisième moment aussi de cette écriture de l'histoire qui s'est faite pendant la période contemporaine, un troisième moment avec Ben Ali, vous en doutez bien, qui s'est également lui aussi proposé de réécrire cette histoire, qu'il a proclamé ou qu'il a fait proclamer, enfin c'est pas lui, c'est la fameuse loi de réforme des manuels et de l'éducation nationale faite par Mohamed Chafi en 1991. Et cette histoire s'est proclamée plus méditerranéenne, évidemment, il fallait que ce soit plus arabe aussi, alors comme si elle n'était pas assez, parce que être arabe et musulman, on l'était déjà depuis les premiers manuels, comme je vous l'ai dit, donc on a toujours le nationalisme arabe, le nationalisme tunisien, c'est toujours dit arabe et musulman, des fois un peu plus arabe et moins musulman, des fois un peu plus musulman et moins arabe. Mais évidemment, cette écriture de 1991, elle n'était pas plus africaine, etc. Mais donc, il fallait qu'elle soit méditerranéenne, c'était un peu dans le look de la période des années 90, en essayant de gommer la figure de Bourguiba, parce qu'elle devait aller ensemble. Et donc, relire ces trois moments, encore une fois, parce que là, ce serait encore une relecture historiographique, trois moments qui se chevauchent, dans lesquels on prend le temps ancien, mais il y a un masque, à mon avis, d'autres niveaux de connaissances qui serait justement l'explication de la construction de cette historiographie, de cette histoire nationale, toujours triomphante. Elle n'a jamais de perte. Elle a toujours gagné, entre autres, l'ennemi qui est toujours clair, et elle a toujours gagné. Troisième point, il faudrait que cet imprévu sonne autre chose, qu'il ne soit pas déjà programmé. Quelque chose de nouveau ou quelque chose d'inédit par rapport à cette tradition historienne, puisqu'il y en a quand même une petite hein, en Tunisie. Déjà, là aussi, c'est là qu'on pourrait penser qu'il pourrait y avoir une révolution. Au bout de ces trois moments historiographiques, le colonial et le post-indépendance Bourguiba et puis Ben Ali, là aussi, cet imprévu, il faudrait peut-être qu'il nous fasse accoucher d'une autre histoire. En d'autres termes, il faudrait que la révolution entre aussi, elle aussi, à l'intérieur du savoir historique et à tous ses étages. Hein. Je vous ai parlé de celui des manuels, mais aussi celui de la recherche, mais aussi celui de l'édition, pour que celui-ci devienne plus opérant, plus utile, moins socialisé et moins figé. Et là aussi, l'exercice de l'esprit critique et le rapport aux sources, que ce soit l'écrit et l'oral, etc., c'est tout ça qui est invoqué, qui est sollicité, qui doit être mobilisé. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'une grande part de la crise politique actuelle est une crise de la conscience historique. D'accord, la Tunisie a 3000 ans, mais le monde, il est plus vieux, non? Et ce qui serait important pour les historiens aujourd'hui, c'est pas tellement d'affirmer ceci, qui est très, qui fait beaucoup de bien à l'ego de tout le monde, mais de comprendre les relations de la Tunisie avec le reste du monde, peut-être, aussi. Même si on en reste à ces 3000 ans, ce qui est déjà pas mal. On répand aussi l'idéologie d'une Oumma islamique ou d'une nation musulmane, alors qu'il s'agit en réalité de l'expression d'une mondialisation qui est autour de nous et dans laquelle nous sommes complètement reliés, à la fois par les voies de la communication, par la finance, etc. On le sait aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est ça. C'est exactement cette relation au monde et à la mondialisation qui est en faute, qui est en cause. Parce que ce que l'on appelle Oumma islamique n'a pas été aujourd'hui le premier moment sur lequel on a joué. Et si je reprends un seul exemple, peut-être pour faire un petit peu de glissement, donc un comparatisme entre le temps, le fameux islamisme, le fameux panislamisme dont on a, qui est né à la fin du 19e siècle, à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, puis après il s'est éteint justement pour laisser place à ce panarabisme, celui de Nasser et des autres, contre lequel Bourguiba s'est élevé. Cet islamisme aussi, c'était à un autre temps le même islam transnational qui aujourd'hui essaye de s'implanter. Mais à l'époque, le véritable enjeu, c'était le califat qui était à Istanbul en 1924. Et donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est justement en relisant toutes ces relations, même si on en reste à la Tunisie nationale, arabe et musulmane, c'est toute cette relecture de la relation de la Tunisie au monde arabe et au monde musulman qui aujourd'hui peut être remise sur le tapis, parce que le nationalisme des indépendances lui-même a été toujours un cocktail très prudent. Et donc, pour situer l'histoire de la Tunisie dans ses mouvements englobants, dans toutes ces plaques tectoniques et toutes ces péripéties internes, peut-être aller chercher, les Tunisiens n'ont jamais eu de révolution jusqu'à aujourd'hui, ça y est, ils en ont une, mais peut-être aller chercher aussi d'autres moments, même s'il n'y a pas eu de révolution, il y aurait eu des transitions, avec peut-être d'autres révolutions moins spectaculaires, mais qui n'en sont pas moins très importantes. Je veux parler par exemple de la transition démographique, dont on est les meilleurs illustrateurs, paraît-il, par rapport à la révolution aussi tranquille du code du statut personnel, et aussi peut-être la révolution tranquille, très très lente, du droit, qui se fige lui aussi, parce que nous vivons encore aujourd'hui, en 2013, sur le droit colonial. Est-ce que je dois... J'ai pas une conclusion.
Une petite conclusion.
Voilà, vous avez compris, faire l'histoire en Tunisie aujourd'hui, c'est un programme infini qui augmente la part d'imprévus à affronter, même quand on se situe au niveau minuscule de l'historien et dans le métier, donc, même si on en reste à l'enseignement et la recherche. Et c'est un travail qui est à faire du côté de l'ouverture de l'histoire aux exigences de la citoyenneté. J'aime beaucoup une phrase que dit une jeune artiste en Tunisie qui dit « L'heure de la culture citoyenne a sonné ». Merci.